moindre de ces syllabes atteint-elle les coins les plus reculés de cette place immense? On ne sait. On ne sait pas non plus comment, sur sa prière, des mains ennemies se tendent l'une vers l'autre dans l'élan de joie d'une réconciliation générale. Si forte est l'émotion que, dans un de ces remous d'enthousiasme un peu effrayant, on se rue vers lui en masse et on tente de mettre sa tunique en lambeaux pour en faire des reliques. C'est un saint qui a parlé. Une foule italienne ne s'y trompe pas. Thomas de Spalato, qui fut le témoin de ces choses, nous en a laissé un récit. La règle perdue. Quittant Bologne, il décide de se rendre à Rieti. Car depuis son retour de Terre Sainte, ses yeux blessés par le soleil d'Orient ne cessent de le faire souffrir. Or, Rieti est l'endroit où de tout temps on va soigner les ophtalmies. La renommée des médecins permet à François un espoir d'améliorer son état, sinon de guérir tout à fait. Il ira par petites étapes. Les grandes randonnées ne lui sont plus possibles. Toute l'ardeur de sa jeunesse se réfugie dans l'âme, qui, elle, demeure infatigable alors que le corps s'affaiblit. Chemin faisant, il cherchera un peu de repos dans les nombreux ermitages où logent les frères mineurs. À Laverna, à Farneto, à Buon Riposo, dans la haute vallée du Tibre. Ces asiles de fraîcheur perdus dans les bois des collines l'abritent de cette lumière qu'il a toujours tant aimée et dont il fuit à présent le torturant éclat. Il y est bien pour prier, et aussi pour réfléchir à sa règle qu'il veut d'une précision inattaquable. Pour François, le seul nom de Rieti gardait une qualité magique. Lors de sa mission d'automne 1208 avec ses 7 premiers frères, il était arrivé à Terni et avait découvert le val de Rieti dont le souvenir émerveillé ne cesserait d'agir sur lui comme un appel du bonheur. Il se revoyait sur la route des cascades, les fameuses cascades delle Marmore, où l'eau, malgré son bruit de tonnerre, ressemblait à des veines blanches dans le marbre vert de la forêt, où la tentation lui était venue de s'arrêter, de fonder un ermitage. Mais il fallait aller de l'avant, convertir une population si favorisée par la douceur du pays qu'elle retournait au paganisme. Longeant le lac de Piediluco, resserré entre les monts Réatin et les monts Sabins, il avait atteint un nouveau paradis terrestre. Dans la dernière semaine de décembre 1222, il se rendit au petit couvent de Fontecolombo. Caché dans un bois de chênes verts, c'était un lieu idéal pour le projet qu'il avait en tête. Qu'il me soit permis d'évoquer un souvenir personnel. Arrivé à Fontecolombo un matin de soleil, nous avons poussé une porte et sommes entrés dans une salle où le mot « visitare » était écrit en capitale. « Visitare », c'était bien cela que nous voulions. Et plusieurs personnes, vêtues assez modestement, avaient sans doute eu la même idée. Assises sur un banc, elles attendaient, et nous prîmes place à côté d'elles. Un groupe de pèlerins plutôt que des touristes. Et nous attendions patiemment quand un gémissement de douleur se fit entendre derrière une porte. Puis une grosse voix rassurante qui disait à peu près ceci. « Voyons, ce n'est pas la guerre. Vous allez voir, ce n'est rien. » Suivit un autre gémissement et nous demandâmes à l'un de nos voisins si la visite du couvent n'allait pas commencer bientôt. La réponse fut immédiate. « C'est le docteur. Il faut attendre. » Nous attendions chez le frère qui soignait les malades. Ainsi, la vieille tradition franciscaine se perpétuait de soins donnés aux pauvres. La charité du poverello avait bien traversé les siècles. Quittant ce minuscule hôpital, nous descendîmes par un chemin étroit jusqu'à une chapelle du XIIe siècle, à peine plus grande qu'un oratoire, mais dont les murs portaient encore des fragments de fresques anciennes que François avait dû voir dans leur fraîcheur primitive. Un Christ tenant un livre à la manière byzantine s'y distinguait toujours. Dans l'embrasure d'une de ses fenêtres, à peine plus large qu'une meurtrière, la main délicate de François a peint la lettre Tau, parfaitement visible et d'une belle couleur rouge-orangée, lettre qui lui servait de signature et qu'il avait dû voir pour la première fois à Rome dans une chapelle consacrée à saint Antoine, premier ermite. On a de bonnes raisons de croire que le Seigneur